à Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, Eric Manelakidza avec vous dans cette édition du mercredi 27 avril 2022. Au sommaire, nord du Bénin, un policier tué dans l'attaque d'un commissariat situé près de la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. Le Burkina Faso et la Guinée demandent un délai pour proposer un calendrier de la transition. En RDC, un document de l'ONU accuse des militaires de violation des droits humains. La Centrafrique adopte le Bitcoin comme monnaie légale. Décollage d'un vaisseau SpaceX pour l'ISS au large de la Floride avec à son bord un équipage d'hommes d'affaires. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Des hommes armés ont attaqué un commissariat dans le nord du Bénin et tué un policier avant de mettre le feu à l'établissement près de la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. Les détails avec Nani Tetalani.
Selon le journal La Nation, des hommes armés à moto ont pris d'assaut le poste de police à Monsey, tuant un membre des forces de l'ordre. Les assaillants ont ensuite tiré plusieurs coups de sommation avant de prendre la fuite dans le parc naturel W, un des deux parcs nationaux situés dans la zone frontalière, rapporte ce journal. Cette nouvelle attaque, survenue mardi matin à Kirimama, n'a pas été revendiquée. Les forces de sécurité n'ont fait aucune déclaration et un responsable de l'armée n'a pas répondu à une demande pour confirmer ou infirmer cette information. Il y a 2 semaines, au moins 5 soldats ont été tués lorsque leur convoi a sauté sur un engin explosif dans le parc de la Bendjari, dans la même zone. L'armée béninoise a renforcé sa présence dans la région après les 2 premières attaques en décembre 2021. En février, 3 attentats à la bombe artisanale ont fait 9 morts et 12 blessés dans le parc naturel W.
La junte malienne a accusé l'armée française de violations répétées de son espace aérien dans le but d'espionner les soldats maliens sur le terrain. Dans un communiqué rendu public mardi soir, la junte a déclaré avoir recensé depuis le début de l'année plus de 50 violations délibérées de la zone d'interdiction temporaire de survol du centre et du nord du Mali. Le Burkina Faso et la Guinée ont demandé à la CEDEAO un délai supplémentaire afin de présenter un calendrier pour la transition après l'expiration d'un ultimatum lundi. Le Burkina Faso a souhaité disposer d'un délai supplémentaire afin de poursuivre les consultations sur diverses questions selon un communiqué de la CEDEAO. De son côté, la Guinée a présenté les évolutions récentes concernant le processus de transition et souhaitait également avoir davantage de temps afin de permettre la poursuite des consultations, ajoute la CEDEAO. La CEDEAO annonce qu'elle enverra des missions dans ces 2 pays avant un prochain sommet des chefs d'État à des dates non précisées. En RDC, dans le territoire de Massissi dans l'Est, des témoignages et un rapport de l'ONU accusent des militaires congolais d'exactions contre la population déjà victime de groupes armés. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Exécutions, viols, tortures, pillages, abus sur enfants, travail forcé, les accusations contre l'armée congolaise sont nombreuses dans les territoires de Massissi. Nous pensions que l'état de siège mettrait fin aux tracasseries, mais en fait, c'est bien pire, a déclaré un responsable de la société civile en déplorant que les exactions des militaires ont lieu à ciel ouvert et en toute impunité. Dans une note verbale le 22 février, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme demande au ministre de la Défense une action urgente contre le régiment des FARC déployé dans le Massissi. Ces soldats sont responsables d'au moins 231 violations des droits de l'homme dans cette zone entre le 6 mai 2021 et le 9 février 2022 selon l'ONU, qui regrette dans cette correspondance qu'aucune action n'a été prise. Le porte-parole de l'armée dans la région, le lieutenant-colonel Guillaume Djike, dit ne pas avoir connaissance de ces accusations contre les soldats de ce régiment.
La RDC a lancé mercredi la vaccination contre Ebola afin d'endiguer une épidémie dans la ville de Mbandaka, annoncé mercredi le Bureau pour l'Afrique de l'OMS. La RDC connaît sa 14e épidémie depuis 1976, précise dans un communiqué l'OMS. Au moins 20 personnes ont été tuées mardi à Gondar, ville de la région éthiopienne de l'Amara, dans le nord-ouest. C'était lors d'une attaque menée par des extrémistes chrétiens durant des funérailles d'un dignitaire musulman local, a rapporté mercredi un organisme islamique. Le Ghana déploie des efforts pour convaincre la population à se vacciner contre le Covid-19 et surmonter le scepticisme quasi généralisé à l'égard des vaccins. La haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a fait part mercredi de sa consternation après les récentes violences tribales au Darfour. Au moins 213 personnes ont été tuées en 4 jours de violences tribales au Darfour, a affirmé mardi soir le gouverneur de cette région. Nouveau sauvetage en Méditerranée, 131 personnes tentant de rejoindre l'Europe ont été secourues par l'Ocean Viking, le navire de secours en mer de l'association SOS Méditerranée des femmes et des enfants, se trouvait sur un pneumatique en détresse dans une obscurité totale au milieu de vagues de 3 mètres et ont été retrouvés sans gilet de sauvetage, a expliqué l'ONG. Au moins 130 personnes ont été tuées par des mines antipersonnelles et autres engins explosifs abandonnés depuis la fin des combats aux portes de Tripoli en juin 2020. C'est le rapport de Human Rights Watch. Les États-Unis se sont dit mercredi profondément préoccupés par la fermeture de sites pétroliers en Libye sur fond de querelles politiques entre deux gouvernements rivaux et ont appelé à y mettre fin immédiatement.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après l'amérissage d'un vaisseau de SpaceX au large de la Floride, un nouveau vol de l'entreprise d'Elon Musk a décollé aujourd'hui pour une mission de la NASA à destination de la Station Spatiale Internationale. Nathalie Barge.
La mission Crew 4 s'est envolée du Centre Spatial Kennedy en Floride pour un voyage de 17 heures avec à son bord les Américains Kjell Lindgren, Bob Hines et Jessica Watkins et l'Italienne Samantha Cristoforetti. Le nouvel équipage va faire des expériences sur les réponses au stress des plantes en apesanteur. Aussi, une entreprise biotechnologique qui collabore avec la NASA veut tester les avantages de la microgravité dans la production de sa rétine artificielle à base de protéines. Depuis 2020, l'entreprise d'Elon Musk fait la navette vers la station spatiale internationale qui était généralement assurée cette dernière décennie par les vaisseaux russes. Le 30 mars dernier, un vaisseau spatial Soyouz transportant un astronaute américain et deux cosmonautes russes atterrit au Kazakhstan. Le 18 mars, trois autres cosmonautes russes étaient arrivés à l'ISS pour la poursuite d'une mission russo-américaine. Cette mission est intervenue au lendemain de la décision de l'Agence spatiale européenne de suspendre une mission vers Mars avec la Russie en raison du conflit ukrainien.
L'ex-marine américain Trevor Reed, condamné à 9 ans de prison en Russie pour violence, a été échangé mercredi avec un pilote russe incarcéré aux États-Unis depuis 2010. Le président américain Joe Biden a confirmé cet échange, disant avoir dû prendre des décisions difficiles pour obtenir la libération de l'ancien militaire américain. La guerre en Ukraine a pris aujourd'hui un tournant économique. Le géant russe de l'énergie Gazprom a interrompu ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie. La réaction la plus forte à ce jour de la Russie aux sanctions européennes à son encontre en raison de son offensive militaire en Ukraine. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Gazprom, qui a prévenu hier ses clients bulgares et polonais, a annoncé mercredi dans un communiqué avoir totalement suspendu les livraisons de gaz faute d'avoir été payé en roubles. La Pologne et la Bulgarie, membres de l'OTAN et de l'Union européenne, et particulièrement dépendantes du gaz russe, ont jugé que cet arrêt des livraisons, une première depuis le début du conflit en Ukraine, constitue une violation de contrat de la part de Gazprom, premier producteur et exportateur mondial de gaz. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dénoncé dans un communiqué une nouvelle tentative de la Russie d'utiliser le gaz comme instrument de chantage. La Commission européenne a proposé en guise de soutien à l'Ukraine de suspendre pendant un an tous les droits de douane sur les produits ukrainiens importés dans l'Union européenne afin de soutenir l'économie du pays. Le Royaume-Uni avait déjà annoncé lundi la suppression de ses droits de douane sur les produits importés d'Ukraine. La Russie, pour sa part, a décidé ce mercredi de se retirer de l'Organisation mondiale du tourisme, prenant les devants, alors que son exclusion devait être soumise au vote des États membres, a annoncé sur Twitter cette agence de l'ONU basée à Madrid.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Nathalie Barge.
La Centrafrique a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA et légalisé l'usage des crypto-monnaies. L'an dernier, les cours du Bitcoin ont flambé de plus de 150% à 68 991 dollars avant de s'effondrer de plus de 30%. Les variations restent très fortes, entre moins 17% et plus 10% depuis février. Global Witness accuse un programme censé contrôler l'origine des métaux extraits en République démocratique du Congo de contribuer au blanchiment de minerais et au travail des enfants. L'enquête de l'ONG britannique révèle que dans une zone minière de l'est du pays, 90% des minerais qui ont été intégrés dans le programme au premier trimestre 2021 proviennent de mines illégales ou alimentent les conflits armés.
En transition, nous passons à votre page des sports. Nanit Sylvanie Talani avec nous ce soir. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. En RDC, Otis Nguma, 56 ans, a été officiellement nommé ce mardi par la Fédération congolaise de football au poste de sélectionneur des Léopards A. Il remplace Florent Ibengue qui avait démissionné après s'être engagé avec le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane. L'une des premières missions du nouveau coach sera de qualifier la RDC au prochain championnat d'Afrique des Nations. Otis Nguma sera assisté par Bertin Makou et deux anciens assistants, Pamphile Miayo, qui a travaillé avec Ibengue, et Guy Bukassa, qui a travaillé avec l'ex-entraîneur Christian Tsengui. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a exhorté les délégués du sommet Afrique Forbes des moins de 30 ans, qui se tient à Gaborone au Botswana, à investir dans les jeunes et le football pour construire une Afrique meilleure. L'urgence maintenant, c'est de se lancer et de faire bouger les choses. Certains de nos jeunes sont parmi les meilleurs au monde. Ce dont ils ont besoin, ce sont des ressources financières et autres, et du soutien, a martelé le docteur Motsepe. Il a aussi encouragé les jeunes à poursuivre leurs rêves et à ne pas se laisser décourager par les défis et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer lorsqu'ils se lancent en affaires. Liverpool accueille ce soir à Anfield le club espagnol de Villarreal pour le match aller des demi-finales de la Ligue des Champions saison 2021-2022. Liverpool pourra compter sur ses deux métronomes, à savoir l'attaquant sénégalais Sadio Mané, vainqueur de la dernière CAN avec les Lions Indomptables, et l'Égyptien Mohamed Salah, qui a inscrit 13 de ses 17 derniers buts en C1 et compte actuellement 8 buts en 10 matchs joués. De son côté, Villarreal pourra s'appuyer sur l'attaquant nigérian Samuel Chukwueze, 23 ans, qui arrive très en forme depuis son retour de blessure, et aussi sur son ailier gauche Arnaud Donjuma, né au Nigeria d'un père néerlandais et d'une mère nigériane, et qui a ouvert le score lors de 4 des 5 derniers matchs de Villarreal. L'Ivoirien Serge Aurier, latéral droit du sous-marin jaune, via le magazine Sport News Africa, avertit d'ailleurs les Reds, donnés favoris, en ces termes « Tout peut arriver. Liverpool est l'une des meilleures équipes au monde, mais cela ne nous empêche pas de nous battre. Et se battre est la devise de ma vie. Après avoir éliminé la Juventus et le Bayern Munich, Villarreal espère réussir un nouvel exploit face à Liverpool. 5 policiers londoniens risquent des mesures disciplinaires après l'arrestation en juillet 2020 de l'athlète britannique Bianca Williams, a annoncé ce mercredi Scotland Yard après une vaste enquête sur les discriminations raciales au sein de la police britannique. La sprinteuse britannique noire de 28 ans et son compagnon portugais Ricardo dos Santos, 27 ans, avaient été arrêtés le 4 juillet 2020 dans l'ouest de Londres, tandis qu'ils étaient en voiture avec leur bébé de 3 mois. Le couple avait été menotté et fouillé par la police, qui n'avait rien trouvé.
C'était les sports de Nanit Sylvanie Talani. Sur VOA Afrique, Eric Manela Kidza avec vous, place au dossier du jour. Le Bureau conjoint des droits de l'homme des Nations Unies en RDC accuse dans un rapport des soldats congolais d'au moins 231 violations des droits humains commises en 9 mois dans un territoire sous état de siège dans l'est de la RDC. Eddie Isango a joint le directeur de cabinet de l'administrateur militaire du territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu, le lieutenant-colonel Muhindo Rwanzo.
Officiellement, ils ne sont pas informés, ils sont informés par vous, bien que les services là, vont faire des enquêtes par rapport à la violation des droits humains. Et je vous confirme que les forces armées de notre pays, la RDC, sont aussi respectueuses des droits humanitaires internationaux et des droits de l'homme. Comme ce sont des individualités, si c'est vrai que d'aller dire vrai, c'est parce que nous avons notre justice militaire qui pourrait s'apprendre de ce sujet-là et essayer de poser la question à celui qu'on a cité pour en fait se justifier. Sinon, là, le 34-10 qui a été récemment déployé dans la zone, officiellement, notre hiérarchie militaire, y compris notre chaîne de la justice, n'est pas encore notifiée quant à ça.
Est-ce que les déplacements ou les redéploiements de ces régiments n'ont pas été faits en raison justement de ces violations dont les militaires sont accusés?
Les régiments, là, c'est une des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, sa limitation au redéploiement dans la zone ne peut pas être un problème. Parce que les identifications de l'énomination des régiments, ça intéresse néanmoins des régiments qui œuvrent depuis au moins 2-3 semaines dans la zone. Ce n'est pas le régime qui a tout à son entièreté qui a violé les droits. Mais si vous pensez que le rapport publié, si on a cité la personne qui a essayé un peu de dépasser, nous avons une justice militaire. Les autorités sont là, respectueuses des droits de l'homme, des droits humanitaires internationaux, connaissant aussi la lutte contre toute violence, que ce soit à l'homme ou à la femme. Je pense que les autorités vont se saisir de ça à partir des rapports là et ils poseront la question à la personne à partir de la justice. Mais jusque là, officiellement, la hiérarchie, à moins que ça m'échappe, personne n'a pas encore reçu ce rapport là, ni des plaintes de la part de la population qui a eu violence des droits de l'homme là où cette mission a été déployée.
On parle plutôt de 231 violations. Vous parlez de crimes individuels ou perpétrés par des individus, mais c'est 231 violations en 9 mois dans les territoires concernés.
Tout dépend de celui qui a fait le rapport. Nous sommes sur le terrain. Nous avons d'autres organisations ici. Avec qui d'ailleurs nous collaborons, nous avons des réunions de sécurité locale, des réunions de sécurité territoriale. Nous les associons dans la récolte des données. Nous, on n'a pas ce rapport. À notre niveau comme territoire, on n'a pas encore reçu de plaintes. Autant de réunions qu'on a eu à faire avec les droits des hommes, la priorité des femmes, on n'a pas encore reçu un seul rapport.
Le lieutenant-colonel Muhindo Rwanzo, directeur de cabinet de l'administrateur militaire du territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu. Greenpeace appelle le Sénégal à suivre l'exemple de la Mauritanie en matière de transparence dans l'attribution des licences de pêche. Nouakchott a procédé au lancement de son deuxième rapport de l'initiative pour la transparence des pêches, FITI, couvrant les années 2019 et 2020. Greenpeace appelle le président Macky Sall à adhérer à cette initiative comme il l'avait promis afin d'éviter les tensions dans le secteur de la pêche. Pour en savoir plus, Abdourahmane Dia, adjoint à Dakar, Abdoulaye Ndiaye, chargé de campagne Océan pour Greenpeace Afrique.
Greenpeace a donné l'exemple de la Mauritanie, parce que la Mauritanie a sorti son deuxième rapport qu'on appelle le rapport City. Et dans ce rapport City, la Mauritanie fait état de tous ses textes en vigueur en matière de pêche. Il fait état de tous ses accords qu'il a avec les États tiers ainsi qu'au niveau international. Dans ce rapport aussi, la Mauritanie donne un chiffre exact sur le nombre de pêcheurs à petite échelle comme à grande échelle et sur les données de capture, ce qui est très important pour le développement et la gestion même du secteur de la pêche.
Le Sénégal n'est pas un peu sur cette voie, si je vous comprends bien.
On n'a pas senti le Sénégal faire le travail nécessaire aujourd'hui pour mettre en place aujourd'hui un groupe multinational. Parce que pour adhérer à la FITI, il faut que le Sénégal dispose deux ministères de tutelle par rapport à la FITI. Donc il faut qu'il y ait un ministère qui soit désigné et qui est chargé de piloter tout ce qui est transparence dans le secteur de la pêche. Et après la désignation de ce ministère, il faut mettre en place un groupe multinational où tous les secteurs sont égaux. L'État est représenté, la richesse est représentée, les organisations des pêcheurs sont représentées, les organisations des consommateurs. Donc tous ceux qui vivent autour de la pêche sont représentés dans ce groupe multinational, dans ce groupe national. Et dans ce groupe, c'est à partir de ce groupe maintenant qu'on va voir est-ce que le Sénégal dispose de tel texte, est-ce que c'est publié, est-ce que c'est activé. Donc la transparence nous permet d'arriver à ce niveau.
Alors, est-ce qu'il est possible d'évaluer aujourd'hui le manque à gagner pour le Sénégal en ce qui concerne les accords formels avec des entités comme l'Union européenne, par exemple?
C'est d'où l'importance pour que le Sénégal adhère à cette initiative. Parce que, rendez-vous compte que depuis le début de la pandémie de la COVID, on a senti que la pêche était toujours au devant de l'actualité. Et quand la pêche est au devant de l'actualité, c'est toujours des acteurs de la pêche qui demandent à l'État ces bateaux que nous voyons dans la mer, qu'est-ce qui les amène chez nous, pourquoi ils pêchent, qu'est-ce qui leur donne ce droit. Donc il n'y a aucune transparence dans ces signatures. Donc ce que le Sénégal gagnerait en plus, la première chose, c'est déjà un climat apaisé entre les militaires et les organisations de pêche. La deuxième chose que le Sénégal va gagner, c'est que toutes ces organisations de pêche, des fois qui se braquent contre l'État, auront accès à toutes ces informations, accessibles à tout un chacun. Et ces informations pourront être même traduites en langue nationale.
C'était Abdoulaye Ndiaye, chargé de campagne Océan pour Greenpeace Afrique. La Centrafrique a adopté le bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA et légalisé l'usage des crypto-monnaies. La présidence assure qu'il s'agit du premier pays à le faire en Afrique et parle d'une décision courageuse et visionnaire. Mais cette mesure suscite beaucoup d'interrogations car de nombreux Centrafricains ignorent ce que c'est le bitcoin. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
C'est une loi controversée, mais qui finalement a recueilli l'avis favorable de la majorité des députés. Avant son adoption par acclamation, certains élus de la nation, en l'occurrence le chef de l'opposition, Anissé Georges Dologuélé, l'ancien premier ministre Martin Ziguélé et la députée de Bombari, Rachel Ngakola, avaient émis une lettre de réserve sur cette loi. Pour ces parlementaires, tous membres de la commission finance à l'Assemblée nationale, le bitcoin a beaucoup d'inconvénients. La députée Rachel Ngakola.
Ils ont tellement menacé le rapporteur général qu'il a laissé de côté nos réserves. Il n'a pas fait mention de la réserve. J'ai demandé une motion pour signaler nos réserves. Et ça a soulevé des tollés. Les gens nous ont traités de rebelles, de groupes interparlementaires, de l'opposition. De quoi ont-ils peur? Nous parlons de la République, de la nation. Nous avons demandé des garanties. On leur a demandé de s'entourer de toutes les garanties avant de prendre une telle loi. Les gens sont tellement pressés, plus pressés que la musique. Alors j'ai préféré ne pas cautionner.
Malgré ces fortes réserves, les parlementaires ont fait le choix de l'adoption du texte. Une satisfaction pour le gouvernement qui l'a proposé. Justin Gournazako est ministre des Postes et Télécommunications.
En tant qu'individu, vous devez déjà vous rendre compte que envoyer de l'argent de la République centrafricaine ailleurs devient très difficile. Recevoir également à destination de la République centrafricaine devient difficile parce que c'est contrôlé. Ça passe par les banques centrales. Et il y a beaucoup de choses. Mais avec la crypto-monnaie, il n'y a plus de contrôle de la banque centrale.
vous avez votre argent, vous envoyez à un investisseur. Pour une entreprise, vous recevez dans n'importe quelle monnaie que vous pouvez disposer avec vous. Vous avez l'Ukraine. Grâce à ça, a pu donc, dans la guerre, avoir des dons, avoir de l'argent et acheter des armes. Donc, il y a tellement d'avantages que je ne peux pas tous énumérer ici.
L'adoption de la loi sur l'utilisation du Bitcoin en République centrafricaine a fait réagir de nombreux centrafricains sur les réseaux sociaux. Certains disent ne pas comprendre ce que cela veut dire. D'autres, par contre, s'interrogent sur la nécessité du vote au moment où le pays est, pour l'instant, le seul à l'adopter dans la sous-région de l'Afrique centrale. Dans les rues de Bangui, les réactions divergent.
C'est une bonne idée, mais qui n'est pas partagée dans sa totalité. À mon avis, je pense que les gens qui utiliseront la monnaie Bitcoin auront bien et bien un problème, puisque on est dans un pays qui est tellement instable.
Par rapport à notre pays, je peux dire que ce n'est pas avantageux, parce qu'il y a un problème de connexion qui se pose déjà.
Les députés ont bien fait de voter la loi sur la crypto-monnaie. Ok, mais ils n'ont pas vu nos parents qui sont à Malengapo. Il y a nos parents qui sont à Bouaï, à Bouara. Ce que je parle là, c'est en République centrafricaine, ce village-là. Est-ce qu'eux, ils savent, comment est-ce qu'ils utilisent la crypto-monnaie pour retirer leur argent?
Même si cette loi suscite l'inquiétude de certains spécialistes en la matière, la présidence centrafricaine, de son côté, s'est félicitée du vote. Selon elle, cette décision historique permettrait le redressement économique du pays. Le président de la République va soutenir les efforts nécessaires dans le respect de la loi afin de mener à bout cette démarche qui place la République centrafricaine sur la carte des plus courageux et visionnaires pays au monde pour tout ce qui signifie et implique l'acceptation des crypto-monnaies en tant que moyen de paiement, a écrit Obed Namsio, ministre d'État, chef de cabinet du président Faustin Archange Touadéra. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Des pompiers de New York et du New Jersey rassemblent les équipements de leurs collègues à travers les États-Unis pour aider leurs homologues en Ukraine à se protéger. Certains pompiers volontaires collectent également des gilets balistiques et des casques inutilisés pour les envoyer. Le reportage de Nina Vishneva, le récit avec Jean-Roger Bion.
Les casques qui protègent contre les balles sont encore dans leur emballage d'usine. Pour l'instant, le pompier volontaire Alexander Savin les stocke dans son service d'incendie jusqu'à ce qu'ils soient envoyés en Ukraine dans un avion cargo spécial.
Voici quelques-uns des casques de protection à notre disposition. Un casque de pompier est beaucoup plus lourd. Tiens, essaye-le.
Alexander Savin est un informaticien de formation, mais il est également pompier volontaire. Casque balistique, garrot tactique pour arrêter le sang rapidement, gilet pare-balles, tous les articles destinés à l'Ukraine ont été achetés grâce à des dons. Les amis de Savin, Michael et Timou, tous deux originaires de la ville ukrainienne d'Odessa, ont publié un message en ligne indiquant qu'ils collectaient des fonds pour aider l'Ukraine et les réponses ont commencé à affluer par centaines.
Quand la guerre a commencé, dès le lendemain, j'ai reçu un appel de mon ancien camarade de classe d'Odessa. Il m'a dit qu'il voulait s'engager dans la défense territoriale, mais qu'il ne pouvait pas car il y avait trop de volontaires. Il n'avait tout simplement pas assez d'équipement.
En deux jours seulement, nous avons réussi à récolter 15 000 dollars. Nous avons donc décidé d'arrêter un peu la collecte et d'acheter des casques avec cet argent.
L'équipement est commandé dans différents états du pays. Tout ce que les volontaires achètent est neuf. Ils ont décidé de ne pas acheter d'articles d'occasion pour ne pas mettre en danger la sécurité des soldats ukrainiens. De nouveau, Alexander Savin, pompier volontaire.
Nous espérons que cela aidera à défendre les personnes qui se battent pour la liberté de l'Ukraine, les personnes qui sont sous les lignes de front.
Les pompiers américains envoient également du matériel professionnel en Ukraine. Oleg Skashko est originaire d'Ukraine et reçoit des nouvelles de ses amis et de ses proches dans les zones occupées par la Russie. Il raconte que ses collègues américains ont immédiatement soutenu son idée d'envoyer une partie de leur matériel aux pompiers ukrainiens.
Nous recevons des appels de Georgie, du Tennessee, du Vermont, de l'Ohio, de Virginie Occidentale. Beaucoup de gens sont prêts à aider. En une seule journée, ce service d'incendie a collecté plus de 400 équipements de protection, allant des bottes aux combinaisons, en passant par les casques et les vestes.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Josèle Morissin, Lionel Lunanilagahima et Michel Claire-Joseph. À la présentation, Eric Manirakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.
VOA Afrique, les infos. À Washington.